Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverses sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. On va évoquer les contraintes budgétaires pour ouvrir cette émission désormais. Ce ne sont plus 10 milliards, mais 30 milliards qu'il faut trouver à l'horizon fin 2025. Alors, il y a deux informations aujourd'hui. Les Échos affirment que pour le compte personnel de formation, finalement, ce ne sera pas un pourcentage, un reste à charge, mais un forfait qui sera payé par le salarié. Forfait de 100 euros, disent ce matin les Échos. Et puis, le gouvernement a renoncé au projet de passe rail à 49 euros par mois pour accéder sans limite aux TER et aux intercités. Problème budgétaire, ce passe-rail a été mis en place en Allemagne, mais il coûte 3 milliards d'euros tous les ans. Et puis, face à cette pression budgétaire, Emmanuel Macron semble bien décidé à épargner les retraités en 2025. On évoquera cette question, est-ce que l'Europe est exclue de la course à l'intelligence artificielle ? Affirmation signée Nicolas Bavrès dans les colonnes du Figaro aujourd'hui. Un de mes invités rentre des États-Unis. Je lui demanderai si désespérément l'Amérique a toujours tout bon quand l'Europe a toujours tout faux. En attendant, les Européens sont décidés à se défendre face à la concurrence des voitures électriques chinoises après l'ouverture d'une enquête. Bruxelles est désormais décidé à taxer les voitures chinoises. Évidemment, des mesures de rétorsion sont à craindre et d'ores et déjà, les producteurs de cognac craignent la réaction de la Chine. On évoquera aussi l'état actuel du couple franco-allemand. Bonjour Roland Gillet.
Bonjour.
Bienvenue. C'est vous qui allez faire l'émission aujourd'hui. J'ai pas une voix qui me permet d'être très très présent. Donc je vais vous donner la parole et vous allez pouvoir comme ça. Vous êtes professeur d'économie financière à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'Université Libre de Bruxelles. Également conseiller auprès de différentes autorités publiques et privées. André Lozocco-Pietri, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Bienvenue. Président de JEDI, l'agence européenne d'innovation de rupture et fondateur du fonds à capital, et Christian Saint-Etienne. Bonjour Christian.
Bonjour.
Professeur au CNAM, membre du cercle des économistes, vous avez publié Le conflit sino-américain pour la domination mondiale, l'Europe et la France dans le nouvel ordre mondial aux collections Alpha. Comment vous vivez la séquence budgétaire du moment ? Alors, je viens de donner deux informations du jour. Le compte personnel de formation, chaque salarié devra verser un forfait de 100 euros pour pouvoir y recourir. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Ou encore le passe-rail qui était promis pour cette année, permettant d'accéder tous les mois pour une somme modique à l'ensemble des TER ou des intercités, qui est purement et simplement enterré. Ça coûte de l'argent, on l'a mis en place en Allemagne, ça a désorganisé les transports allemands, ça n'a pas permis de désengorger les routes, mais ça coûte 3 milliards d'euros tous les ans à l'État fédéral et aux lenders. Mais ce sont que deux exemples sur la séquence, Christian Saint-Etienne.
Le gouvernement se trouve confronté aux conséquences de la politique qui a été menée depuis 4 ans, avec le déficit le plus élevé parmi les grands pays européens. Sachant qu'en plus, nous sommes dans la situation du double déficit, c'est-à-dire un énorme déficit extérieur. Et dans cette situation-là, il faut absolument reprendre le contrôle des finances publiques. Alors, pour dire très simplement aux auditeurs, téléspectateurs, on est sur une tendance de déficit à 4,5 points de PIB par an. On fera pire, d'ailleurs, on a fait pire en 2023, on est vraisemblablement au-dessus de 5 points de PIB.
Ah, on sera au-dessus de 5, oui.
Et on aura du mal à tenir la ligne des 4,5 à la fois en 2024 et 2025. Or, il faudrait que, et c'est assez facile pour une fois, il faut diviser par 3 le déficit, c'est-à-dire le ramener de 4,5 à 1,5, pour que ce soit soutenable, c'est-à-dire que le taux d'endettement rapporté au PIB, qui est autour de 110 points de PIB aujourd'hui, commence à se réduire significativement.
Vous avez dit facile, Christian Saint-Etienne.
Non, mais facile sur le plan mnémotechnique. Donc, il faut passer de 4,5 à 1,5, il faut réduire de 3. Et là, il faut se souvenir, et je termine par ça, sur une dépense publique en France qui est à 56 points de PIB en 2024, on a une dépense sociale qui représente à peu près 60% de la dépense publique. Donc, si vous excluez les mesures concernant les prestations sociales notamment.
C'est pas possible.
Toute l'action sociale, vous n'avez aucune chance aucune de ramener chance. De 4,5 à 1,5.
Bon, donc ça veut dire qu'il faut réformer l'assurance chômage. Ça veut dire
il faut jouer sur les retraites. Et retraites.
Ah ben oui, mais les retraites, c'est non.
Alors le président a dit non, mais parce qu'il... Vous savez tous pourquoi.
Oui, parce
que c'est son premier électorat. Néanmoins, même du point de vue des retraités, dont je regarde l'ensemble des retraités droit dans les yeux, je pense que c'est même leur intérêt que...
Alors, il faut... Vous allez vous faire insulter, Christian.
Il y a des gens qui ont dit, qui proposent d'arrêter les indexations. C'est évidemment insupportable, parce qu'il faut toujours se souvenir que les prestations retraite sont la contrepartie des cotisations que les gens ont versées pendant 40 ans. Donc, il n'y a pas besoin... Enfin, ce n'est pas justifié, ce n'est pas acceptable qu'on les extermine quand ils sont retraités. Néanmoins...
Extermine.
Ben oui, ça revient à l'extermination.
Oui, non, mais bon...
En revanche, je pense que les retraités eux-mêmes devraient soutenir une mesure où on ferait une indexation sur les prix moins 1%. Et si vous faites les prix moins 1% 3 ans ou 4 ans de suite, ça fait une énorme économie et en même temps, ça préserve
pourquoi est-ce qu'il serait favorable
parce que...
C'est une sous-indexation, ce que vous me présentez.
Oui, bien sûr.
Bon,
mais pourquoi il serait favorable? Parce que comme les retraites représentent quasiment un quart de la dépense publique, si on a un choc de dépenses, un choc sur les finances publiques comparable à la Grèce, ça ne sera pas inflation moins 1%, ça sera moins 30%.
Oui,
donc, il vaut mieux avoir une réduction douce sur la longue durée qu'un choc
violent. Bon. Roland Gillet, vous trouvez que la France est vraiment plus malade que les autres ?
Mais ça dépend.
Parce que c'est un peu l'impression qu'on a quand on regarde les chiffres macro.
Mais ça dépend de quoi, malade. Mais certainement de son déficit et de son endettement.
Oui, mais on aurait pu le dire il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans.
Mais le pire,
sauf que là, on a un sentiment d'urgence.
Oui.
On a le sentiment que Bercy est un peu mort de faim sur les.
C'est vrai, mais c'est parce qu'on continue dans la même voie. Chaque fois qu'on n'arrive pas à faire passer d'un point de vue, alors évidemment, il y a les élections maintenant électorales, une décision intelligente qui demanderait un effort sur le plan budgétaire, on le ramène par un endettement plus important. Qu'on reporte à terme. Alors, à force de reporter de l'endettement, à un moment donné, d'abord, avec les taux d'intérêt qui remontent, même si on peut espérer qu'ils vont rebaisser, ça fait tout de suite un peu plus mal que quand ils étaient à zéro. Et surtout, on ne règle pas les problèmes de fond. Et c'est ce qu'on vient de dire maintenant sur les retraites. Si on dit, c'est un point important, il y a eu des gens dans la rue. Enfin, moi, je suis venu beaucoup à Paris, comme beaucoup d'autres. En tant qu'étranger, j'ai vu plus de gens dans la rue depuis des années parce que le problème des retraites allait être adressé. Et au bout du compte, maintenant, on arrive dans la période difficile électorale de faire passer des choses qui rendent la dette soutenable. Et qui rendent aussi les finances publiques françaises plus crédibles. Et là, finalement, on dit, on ne fera rien. Et c'est le président lui-même qui a pris des risques avant sur ce volet-là, qui n'est quand même pas très facile à faire passer, qui le dit. Donc je dis, à un moment donné, la France finit par être malade de son inaction sur des choses où elle a promis qu'elle le ferait. Et c'est vrai que si on regarde pour le moment sur des chiffres quand même qui sont importants, on parle de l'Allemagne qui va un peu plus mal, et c'est vrai sur certains points, mais regardez, 64% de PIB, le rapport dette-PIB, nous on est à plus de 111, ni nous, en m'associant
on est à 111,
à la France.
Nous.
Donc clairement, si on continue, on fera 120 par rapport à 60. Alors de dire, les Allemands sont capés sur certaines dépenses publiques parce qu'ils ont des règles internes. Vous l'avez vu notamment au niveau de l'aide à leur PME, où ils n'ont pas pu faire parce qu'il y avait une règle 2. Ici, il n'y a aucune règle. Aucune règle, j'entends, fixée d'avance. Et même pas des seuils absolus de dette, comme les Américains qui disent à un moment donné, si on atteint un certain niveau absolu, on doit quand même le dire au peuple. Et si on ne trouve pas un accord tout de suite, tout le monde le voit parce qu'on ne sait plus payer certaines dépenses publiques. Alors, je ne dis pas qu'il faut aller dans ces excès-là, mais ni dans la rigueur allemande, ni dans l'excès de constatation du côté américain. Mais à un moment donné, si on veut que les choses soient claires, il faut quand même aussi les exposer. Et c'est ce que disait Christian vis-à-vis des retraités. Moi, je n'ai pas la prétention d'expliquer ce qu'il faut faire aux Français étant belges sur le volet des retraites, mais si on ne fait rien, c'est pire. C'est pire.
Bon, il ne se passera rien, visiblement, sur les retraites. On nous parle d'une réforme de l'assurance chômage.
Oui, mais ça augmente le risque que ça fasse moins 30 un jour.
Oui, mais c'est la première fois, je trouve, que j'ai ce sentiment un peu de malaise. On a l'impression qu'il faut tout d'un coup, dans l'urgence absolue, aller chercher des paquets de milliards d'euros, comme jamais j'avais vu des économies imposées comme ça...
On l'a fait en 96-97.
Je devais être trop jeune alors pour m'en rendre compte.
Et vous n'étiez pas né. L'a fait aussi. Et on l'a fait sous Hollande en 2012. Sauf que lui.
Non, c'est des impôts là.
Voilà, il a fait un point et demi de hausse d'impôts. Ce qui a tué l'économie française pour trois ans.
C'est très très efficace. On nous regarde comment en Europe, André ?
Les Européens sont tous malades de différentes maladies. Je trouve que la France, il y a ce côté, on est un peu comme un drogué, où effectivement on a l'air d'être encore très bien parce qu'on sort du quoi qu'il en coûte. Hein. Ça, c'était quand même très facile en tant que politique.
On vit encore la côte de
Tomette. Et le problème, c'est que l'overdose est dans quelques mois. Enfin, c'est clair. On a quand même le premier poste de budget l'année prochaine qui sera le service de la dette.
Donc, c'est jamais arrivé.
Deuxième chose, on a quand même le bonnet d'âne, mais ça, c'est tous les gouvernements qui nous ont précédés depuis des dizaines d'années, qui en fait, quand ils ont un problème, ils font le fameux coup de rabot. Toutes les entreprises savent que quand on rabote toutes les choses de même manière, mais c'est pas là qu'on restructure une organisation.
C'est pour ça que je dis que c'est l'urgence absolue.
Et ce qui est terrible, c'est qu'en plus, c'est les investissements d'avenir qui sont touchés. C'est l'enseignement supérieur et l'innovation. Donc oui, c'est très facile dans une entreprise également de couper la R&D. On ne le voit pas pendant 3 ans. Mais dans 3 ans, on sera totalement perdu. On va parler de l'IA et d'autres. Deuxième chose, c'est la justice. Si on parle d'une cohésion sociale nécessaire, le sujet de la justice est la priorité numéro un. Dernière chose, tout ce qui est environnement. Si on pense que le sujet climatique, c'est une des premières priorités parmi tellement d'autres du Premier ministre. Voilà.
Donc on a quand même partie de ceux qui considèrent qu'on a... Parce qu'effectivement, aller tailler des dépenses rigides, qui sont notamment la masse salariale, c'est très compliqué. Alors, on va finir.
Et je ne comprends pas le président. Il ne rentrera pas dans l'histoire. C'est le moment ou jamais d'expliquer. Je veux dire, si on veut vraiment être un peu dans les pas de Gaulle, qui avait eu à certains moments, effectivement, le courage d'expliquer des mesures impopulaires, c'est le moment ou jamais. Je ne le vois pas venir.
Alors là, les pistes, réformer l'assurance chômage, stopper le système pré-retraite unédique, désindexer des prestations comme les APL ou les allocations familiales, réduire peut-être les primes à l'apprentissage, sans doute, on verra une nouvelle attaque contre le crédit d'impôt recherche. Il y a toujours l'histoire des cotisations allégées au-delà de 2,5 SMIC, peut-être un nouveau gel du point d'indice de la fonction publique.
Vous avez un paquet
peut-être sur ce sujet du crédit impôt recherche. Pourquoi pas? Je veux dire, il faut arrêter les tabous. Je veux dire, tout le monde sait que le crédit impôt recherche aujourd'hui, il bénéficie aux grands groupes. C'est du beurre dans les épinards de budget R&D, pas du tout spécialisé sur les quelques priorités technologiques dont on a besoin. Mais personne n'ose y toucher parce qu'évidemment le lobbying du CAC 40 est beaucoup plus puissant que celui des plus petites structures qui ont beaucoup de mal à y avoir accès. Non, là il faudrait le restructurer. Bon. Mais le problème c'est que tout le monde est finalement un tout petit peu peureux et n'a pas beaucoup de courage.
Il est monté à plus de 6 milliards le CIR. Je crois qu'il est aux alentours de 6 milliards et demi.
Il faudrait réfléchir à l'efficacité de cette mesure. On ne sait pas mesurer l'impact.
Je suis d'accord, et d'ailleurs Philippe Aguillon défend aussi cette idée qu'il ne faut pas avoir de tabou sur le crédit d'impôt recherche, et s'il y a des choses à faire, il faut les faire. Oui, Christian Sattier.
Non, je disais, il y a 3 mesures, toutes aussi détestables les unes que les autres.
Rien ne sera très confort.
Parce que ça touche à chaque fois des groupes sociaux importants, mais si vous faites retraite et l'ensemble des prestations sociales...
Retraite, donc sous indexation.
Avec inflation moins 1%.
Oui.
Si vous restreignez, comme ça avait été fait d'ailleurs sous Hollande, la progression des dépenses de fonctionnement des collectivités locales, parce qu'on a une création d'emplois absolument délirante actuellement dans les collectivités locales, il faudrait accepter qu'il y ait une restructuration au niveau de l'action locale. Si vous faites donc la mesure sur les prestations sociales, sur les collectivités locales, et vous évoquiez sur le chômage. Alors le chômage, c'est très intéressant, parce que c'est une mesure de réduction de la dépense qui augmente l'offre.
Et ça, c'est une mesure de réduction de la dépense, quelle offre ?
De l'offre de travail. Parce qu'aujourd'hui, les conditions d'obtention des allocations chômage sont beaucoup plus favorables en France qu'en Allemagne.
Elles restent plus favorables.
Voilà. Si vous les alignez sur l'Allemagne, vous augmentez la force de travail. Je lisais en venant vous voir ce matin...
Si je les aligne sur l'Allemagne, j'augmente la force de travail. C'est évident.
Parce que vous réduisez le nombre de chômeurs qui optimisent les allocations chômage.
Vous partez du principe qu'il y en a beaucoup qui optimisent les allocations qui auront des incitations au retour à l'emploi, plus fortes.
Ça augmente le retour à l'emploi.
C'est la grande idée de Gabriel Attal.
Oui, et donc si vous faites ça, je lisais ce matin qu'il y a une usine de retraitement des panneaux photovoltaïques à côté de Bordeaux qui voudrait voudrait tripler sa capacité de traitement des panneaux photovoltaïques usagés, mais qui n'y arrive pas parce qu'il ne trouve pas de travailleurs. Mais ces exemples-là, vous pouvez les multiplier par 100 sur le territoire. Et si vous faites ça, on parle aussi, c'est très important, ces mesures de réduction de dépenses qui augmentent l'offre, parce que si on accélère la croissance du PIB, à ce moment-là, ça réduit aussi la pression sur le déficit.
Mais il y en a certains, vous expliqueront, Christian Saint-Etienne, que cette réduction de dépenses qui augmente l'offre, ça marche quand le ciel est bleu, mais pas quand le ciel est gris.
Non, ça marche tout le temps.
Alors, parce que c'était quand même l'engagement...
Parce qu'on est dans une économie en transition, oui. Donc si vous ne pouvez pas augmenter le traitement des panneaux photovoltaïques alors qu'il faut accélérer dans la transition énergétique, vous êtes totalement sur place.
L'engagement de l'exécutif était de mener des politiques contracycliques, c'est-à-dire de serrer la vis quand ça va bien et de la desserrer quand ça va mal. On est plutôt dans une période de détérioration du marché de l'emploi.
C'est pour ça d'ailleurs qu'il faudrait changer de la politique monétaire, on évoquait tout à l'heure.
Bon, je veux bien qu'on parte sur la politique
monétaire. À partir du moment où tous les États restructurent et réduisent leur déficit public, il faut que sur le plan monétaire, on desserre le frein.
Polysémique, c'est-à-dire qu'il faut, si on serre le budget, il faut desserrer le monétaire.
Bah voilà.
Donc ça veut dire qu'il faudrait accélérer la baisse de taux.
Notamment le taux de dépôt, qui est à 4 et qu'il faudrait ramener à 3 en urgence.
Roland Gillet, par rapport à ce qu'on a dit, engagements contracycliques, finalement la BCE a une clé de réponse que pour l'instant elle n'agite pas.
Mais juste d'abord un premier point que je trouve quand même très important, c'est que la France a été parmi les pays pendant la période Covid et après, il y en a d'autres, mais qui ont été très dans quoi qu'il en coûte et qui ont donné justement la possibilité à des gens dans une période grave de s'en sortir même mieux que s'ils avaient travaillé.
Oui,
mais donc, l'ennui aujourd'hui, c'est que pour faire passer, quand ça touche des grands groupes, comme le disait Christian ou André tout à l'heure par rapport à la comparaison à l'Allemagne, faire passer auprès de gens qui ont vu qu'on n'est quand même pas tombé, entre guillemets, en faillite, qu'il n'y a quand même pas eu de catastrophe, qu'on a pu placer toute cette dette à la Banque centrale, leur dire maintenant, pour des choses qui paraissent plus marginales par rapport à la crise Covid, vous savez, ça on ne peut plus faire comme effort. Eh bien, ça semble très difficile, d'autant plus dans un pays où on dit, mais enfin, pourquoi ? On l'a bien fait avec un gros problème, et pour le moment, on tombe peut-être du 10e étage ou du 100e, ça ne change rien, mais on n'a toujours pas touché le sol au moment où ça fait très mal, et donc on dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas encore une fois ?
Et on a changé.
Donc, chaque fois que vous amenez quelque chose, on a dit les retraites, ce que Christian proposait tout à l'heure, c'est quand même pas la fin du monde pour quelqu'un qui voit quand même une longévité dans sa retraite. Si on dit, sur ce qu'on a dit pour les primes recherche, quand on voit quand même comment c'est fait, parfois comme ça peut être vraiment un bonus non nécessaire, on peut aussi faire des choses. Mais ici, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on ferait des efforts ? Puisque de toute façon, dans les périodes les plus graves, il ne s'est rien passé. Le taux d'endettement de la France, la prime de risque reste vraiment pour le moment tout à fait, non pas acceptable, mais très faible. Donc, en gros, comment est-ce qu'on va faire passer, qu'on va toucher à beaucoup de gens un tout petit peu, alors que quand ça va très mal, on arrive à le faire passer par de l'endettement qu'on... Et alors on utilise évidemment les mauvais jeux qu'on peut utiliser de la Banque centrale pour masquer le fait que finalement on s'endette à nous-mêmes, puisqu'on place dans une banque centrale, même européenne, de l'argent où les actionnaires sont les États eux-mêmes et où on le reproche, pour le FMI notamment, à des républiques bananières, en disant « mais non ». Vous ne pouvez pas quand même vendre à votre banque centrale votre endettement. Or, ici, c'est ce qu'on fait. Et donc, à un moment donné, le peuple
qui est dans la rue...
C'est ce qu'on a fait. Mais c'est ce qu'on a fait.
Oui, mais
et je ne l'exclus pas, d'ailleurs, qu'on puisse à un moment donné encore le refaire.
Je ne l'exclus pas.
Si ça fait mal à un moment donné au niveau agitation sociale... Et c'est ça qui est quand même dangereux. Et si on ne peut pas... Et alors, c'est vrai, ce que disait André aussi sur le volet expliqué aux gens, ce qui pourrait arriver sans prévoir la fin du monde... avec ce genre de mécanique derrière et que plus personne ne veut faire des efforts. En Belgique, je le dis souvent, quelqu'un qui doit faire des efforts, ben, si c'est sur le revenu, on doit taxer tous les gens jusqu'à mon revenu à moi, normalement, et puis les autres doivent payer. Donc en gros, aujourd'hui, c'est tout le monde, mais pas moi, fera l'effort. Et avec cette technique-là, on finit par ce que ceux qui doivent faire l'effort à un moment donné disent « mais pourquoi nous ?» Et en plus, qu'est-ce que ça coûterait si on faisait comme avant ? C'est ça, moi, je pense, qui fait qu'on tourne en rond. Et oui, la France a quand même été dans le quoi qu'il en coûte. Et si vous regardez encore aujourd'hui sur beaucoup de choses, même sur l'armement et ainsi de suite, hein, sur le fait qu'on doit se réarmer et faire des choses, c'est ceux qui sont le plus dont on va le faire. Mais je me demande comment ils ont les marges budgétaires pour le faire. Donc je vois bien où ça va aller à un moment ou à un autre.
Hein. Personne
et si on regarde pour le climat, regardez, c'est aussi la même chose. C'est comment est-ce qu'on peut convaincre l'Europe de s'endetter pour le faire. Mais l'endettement européen n'a d'égalité qu'à partir du moment où on voit les pays qui garantissent cette dette. Hein. Et donc, moi, ça m'inquiète, oui.
Personne ne veut imaginer qu'il puisse y avoir un jour un incident de crédit qui le rattrape. Voilà. On a l'impression... Alors, vous dites qu'on est au 100e étage et que pour l'instant, tout va bien.
Ben oui. Mais je pense qu'on n'est plus au centième, on descend de plus en plus vite.
Oui, sauf que la gravité...
André Lezecrou.
Sauf que la gravité est une loi implacable, et ce qu'on n'a probablement pas compris, mais on est en train de le réaliser, qu'on est dans ce fameux monde exponentiel, c'est-à-dire les choses ne sont de moins en moins linéaires. C'est-à-dire il y a des à-coups, et je pense que sur le sujet budgétaire, on va avoir exactement le même enjeu. On est en train de se rendre compte sur la défense qu'on est incapable, européen, de se défendre. Donc, prions que Poutine ne soit pas complètement fou. Mais s'il l'est, eh bien, je pense qu'on va être tout nu. Heureusement qu'on a notre dissuasion en France, mais bon, pensons aussi aux autres pays européens. Mais on n'a plus aucune marge de manœuvre. Une deuxième crise Covid, comme celle qui nous est arrivée en 2020, on est incapable d'y répondre.
Sans la Banque Centrale Européenne, c'est absolument évident. Voilà.
Et la Banque Centrale Européenne...
Vous diriez qu'il faut qu'elle baisse ses taux d'urgence.
Mais je pense qu'elle n'est pas du tout dans le proactif. Je pense qu'on va parler de la comparaison entre les États-Unis et l'Europe. Le vrai sujet, c'est que d'un côté, on fait de la stratégie, on anticipe. Et ici, j'ai l'impression qu'en France et en Europe, on est sur le boulevard périphérique et on fait une circulation en accordéon. D'ailleurs, parfois on roule quand ça va bien et bam, soudain on s'arrête. Je pense que c'est ça la vraie image.
Mais vous pensez vraiment qu'il y a... Enfin, on a souvent posé la question...
Il va y avoir une autre pandémie, c'est sûr.
On s'est toujours demandé si la BCE était impuissante ou incompétente.
Incompétente. Je crois que c'est clair. Enfin, par rapport aux résultats des Américains depuis maintenant 20 ans, il y a un décrochage de 30% du PIB.
Ah, ça, faut reconnaître que...
Par habitant,
La fameuse Amérique en récession en 2023...
C'est raté.
Vous rentrez des États-Unis, Roland Gillet. Vous allez nous dire un peu comment est-ce que vous avez perçu ce pays et comment vous nous regardez quand on est là-bas, comment on nous regarde, nous. Alors, il y a les aspects géopolitiques, les aspects purement économiques et justement, la course à l'intelligence artificielle. On a évoqué le CAC 40 qui se porte si bien la semaine dernière. En admettant que s'il y a des secteurs qui sont bien présents dans le CAC 40, avec des vraies puissances françaises totalement internationales, sur la tech, c'est quand même pas le bonheur. On marque une pause, on se retrouve dans un instant.
Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Roland Gillet, professeur d'économie financière à Paris 1, Panthéon-Sorbonne et à l'Université libre de Bruxelles, vous conseillez, Roland, différentes autorités publiques et privées. André Lezecoupe-Pietri, le président de JEDI, l'agence européenne d'innovation de rupture, et fondateur du fonds Acapital, et Christian Saint-Étienne, professeur au Conservatoire national des arts et métiers, membre du Cercle des économistes, auteur de nombreux ouvrages, dont le conflit sino-américain pour la domination mondiale, l'Europe et la France dans le nouvel ordre mondial. Collection Alpha, l'Europe et la France nulle part. C'est justement ça la question. J'avais mis, comme vous rentiez des États-Unis, Roland, je m'étais dit, on va en parler. Et notamment, en résonance... c'est vraiment l'occasion, parce que Nicolas Bavrès fait une chronique sur le fait qu'on est en train de rater, les Européens, le virage de l'intelligence artificielle. Je connais bien les positions de Nicolas Bavrès, qui voit généralement plutôt... l'avenir de manière sombre, et cette histoire d'une Europe qui est en train de rater le virage de l'IA, j'en ai tellement entendu parler que j'ai même pas lu la chronique ce matin, en fait. J'ai juste alerté André sur le fait qu'elle avait été publiée, que c'était l'occasion d'évoquer justement l'un des éléments qui peut probablement nous mettre en porte-à-faux par rapport à la dynamique américaine. Vous rentrez des États-Unis, Roland Gillet. Je sais pas quels sont les... Parce que bon, vous aviez évidemment un agenda chargé, vous n'êtes pas allé faire du tourisme, et on a l'impression que les Américains ont toujours tout bon, et que les Européens ont toujours tout faux, et que c'est valable sur tous les domaines, et que eux, ils savent faire du déficit pour investir, alors que nous, on ne sait faire du déficit que pour des dépenses de fonctionnement, et que eux, ils savent avoir une espèce de logique d'investissement où quand on a trouvé un bon, on est prêt à lui donner des montagnes de milliards parce qu'il est bon, et qu'il va faire des étincelles.
Aujourd'hui,
SpaceX.
En Europe, un bon, on le punit.
Aujourd'hui, en Europe, un bon, on s'en rend pas compte. On fait du France 2030 et on va essayer d'arroser un peu partout en espérant qu'il y ait une pousse verte quelque part. Enfin, on a l'impression qu'ils ont toujours tout bon.
D'ailleurs, les petites gouttes vont être aussi réduites. C'est-à-dire, on va passer en moyenne de quelques millions d'euros à 2-3 millions d'euros par investissement dans France 2030. Enfin, ça devait être un très bon programme.
Il y a eu un engagement de ne pas y toucher.
Ah oui.
J'ai entendu l'engagement ce week-end qu'on n'allait pas tailler dans France 2030.
Oui, oui.
Pour vous, Bruno Bonnell va se faire retirer des sous.
En tout cas, ce qu'on voit, c'est que nous, ça fait un an qu'on discute avec lui. Ça devait être fait en 2023 et qu'on sent bien qu'aujourd'hui, il n'a plus de marge de manœuvre. De toute façon, il a autant de chefs que de ministres dans le gouvernement. Donc déjà, il y a un problème.
Problème de gouvernance.
Il saupoudre. Il est obligé de saupoudrer. Il est très bien, lui. Mais
Bruno Bonnel, c'est donc...
On n'a pas changé la manière de faire de l'innovation. On ne fait pas de grands paris. Et donc, on va se planter.
On n'a pas changé.
On n'a pas changé.
On avait l'impression que France 2030, justement, lui, était optimiste.
Oui, mais il
disait, ça y est, maintenant on sait piloter, maintenant on sait attribuer les fonds.
On a trouvé l'homme le plus optimiste, le plus engagé, celui qui fait le pont entre le public et le privé. C'est un ancien entrepreneur qui est devenu député. Mais il n'a pas réussi à changer l'obsession française de faire du saupoudrage et de faire plaisir à tout le monde, dans les territoires. Il y a toujours la pensée électorale quelque part. Hein.
Regardez, Nicolas Dufour, qui a BPI, a quand même réussi une mission impossible, qui était de ne pas en faire un outil politique et une vraie banque. Vous pouvez espérer que Bruno Bonnel, effectivement, avec son enthousiasme et sa bonne volonté... Mais là, vous me dites que... J'ai vu pas
mal... Il ne faut pas désespérer, je pense que ça va être très compliqué, oui.
J'ai vu pas mal de gens évoquer la possibilité ou l'hypothèse qu'on aille chercher quelques subsides dans France 2030 au moment où on racle dans tous les sens pour faire ces fameuses économies. Ça commence à être des économies assez lourdes, hein, 10 milliards sur une année, 20 milliards sur une autre... C'est plus l'épaisseur du trait. On a tout faux, les Européens, Roland Gillet ?
Mais humblement, moi, je veux dire ce que je comprends depuis, quand même, en dehors de ce voyage-ci, de ce que voient les Américains depuis des années. Ils voient quand même un concurrent, mais aussi un client, qui a toujours l'art d'expliquer, de donner la morale de façon générale, et parfois plus, je m'excuse, en France qu'en Allemagne, au monde entier, en prenant des mesures qui les appauvrissent et qui, en plus, continuent à les appauvrir. Si je prends sur l'énergie... Les Américains, encore maintenant, en tant que premier producteur de pétrole, regardent quand même un peu autour d'eux, ils voient notre consommation de carboné, et ils voient à quel point on en est dépendant, et à quel point on fait du marketing sur l'électricité, en oubliant qu'une grande partie, c'est moins vrai en France, mais dans d'autres pays, si on prend la moyenne européenne, on utilise quand même encore beaucoup de carboné pour produire notre électricité, et à un coût beaucoup plus élevé, étant donné ce qui s'est passé en Ukraine. Et on a encore de la chance, nous disent-ils, qu'ils ont puisé, comme d'autres, dans leurs réserves stratégiques, quand plutôt les pays du Golfe étaient sur le volet, on veut des prix plus élevés, pour nous aider dans les périodes les plus difficiles, et sachant qu'ils ont encore une arme eux, qui est importante, qui est le dollar, qui ne les impacte pas. Et grosse différence, eux, ils n'ont pas de problème de balance commerciale, puisque quand eux ont de l'énergie qui coûte plus cher, ils l'achètent à eux-mêmes, je prends pour le carboné. Et donc, eux, ils regardent comment on gère ça. Puis alors, il y a les matières premières de façon générale. Ils regardent aussi ce qu'eux prennent comme accord, comment ils fonctionnent, ce qu'ils en ont dans leur sol, et ce que nous, on a, et sur ce volet-là aussi, sachant qu'elles sont en plus exprimées en dollars, ils ne nous trouvent pas géniaux, mais ils ne disent rien, parce que eux, sur le long terme, ils se disent, ça ne peut encore que nous donner un avantage compétitif. Le premier cas, c'est sur le coût de l'énergie pour les entreprises, et même pour les ménages, et donc ils vont pouvoir utiliser cet argent à autre chose. Et donc, sur le côté géopolitique, ben, pareil, ils sont sur le côté, l'Ukraine est très loin. Ce qui a été fait, ils ont assez dit ce qu'ils pensaient sur le plan moral, et on est tous d'accord, même s'il y a des pays qui sont d'ailleurs d'accord, mais n'ont pas mis de sanctions vis-à-vis de la Russie. Et ils voient quand même qu'avec un certain tour de passe-passe, une bonne partie, quand ils font les comptes des plus et des moins, au niveau de l'Europe, il y a une bonne partie qui vient quand même de Russie, sauf qu'au lieu de venir en direct, oui, tout le tour avec des commissions, elle reste. Donc ils disent, ok, c'est une manière très chère d'avoir de l'énergie, et c'est une manière tout à fait impropre, pas dans le sens du carbone, de l'expliquer à la population en faisant semblant qu'on ne l'a pas vu. Donc ils nous regardent encore sur le volet, qu'est-ce qu'ils font. Et puis alors venons sur le plan militaire. Même pour le moment, et je ne dis pas qu'il ne fallait pas faire une aide à l'Ukraine sur le plan militaire, mais il y a à peu près, j'ai les chiffres ici, 68% de ce qu'on a dépensé pour le moment pour la guerre en Ukraine, je parle des Européens, qui a été acheté aux Américains. Donc c'est du matériel américain. Donc le leur qu'ils ont évidemment fourni, il est forcément américain, ils ne vont quand même pas fournir de leur, puisque là ils ont carrément amené du matériel. Et ce que nous, on met dedans, c'est eux à 68%. Donc de nouveau, ils disent vous pouvez continuer comme ça. Je suis d'ailleurs pas sûr que la guerre ne... C'est ce qu'ils me disent, hein, c'est ce que j'entends et ce que j'ai compris humblement. Je ne suis pas sûr qu'elle va s'arrêter, mais si vous continuez, elle va vous coûter très cher. Et, dernier point, ils disent donc, maintenant qu'on a décidé que les cotisations à l'OTAN, ce serait quand même bien que vous les payiez, comme vous finissez toujours par nous critiquer, à nous montrer que nous, on a toujours un but derrière la tête, que c'est pour des raisons... stratégiquement économique que vous faites les choses et même que vous aidez plus les Ukrainiens que nous, on commence à en avoir ras-le-bol, qu'on est toujours regardé de travers. Et si en plus il y a un dégât collatéraux quand on envoie des avions, forcément comme c'est nos avions, vous expliqueriez que si c'était les vôtres alors que vous n'en avez pas assez, vous n'auriez pas touché l'église ou malheureusement la clinique et tué des gens. Et donc pour le moment, à un moment donné, débrouillez-vous. Mais qu'est-ce qu'ils me disent aussi derrière? Quand je vois déjà ce que vous allez mettre dans le climat, et ils ajoutent par endettement, je crois qu'on est un peu tous d'accord autour de la table, que ce soit la BCE ou que ce soit les pays individuels. Est-ce que vous allez mettre au niveau militaire tout cet argent-là, en plus de ce que vous avez dit, Nicolas, sur le côté de dire tout ça fait qu'aux États-Unis, ils vont vers de vrais investissements plutôt que pour de la dépense publique, sociale, et que c'est ça qu'ils privilégient, ils voient que nous, on va les mettre énormément d'argent dans du militaire qui n'est pas le commerce, je vais dire, habituel, et pour des raisons qui peuvent s'imposer par rapport au problème en Ukraine. Donc je vois quand même sur les différents points, et vous avez vu que c'est pas c'est bien, c'est mal, des choses factuelles où ils ont tendance à dire quand est-ce qu'ils vont réagir, où on comprend qu'on va devoir avoir aussi peur que quand il y a des réactions dans d'autres zones géographiques, dont l'Asie. Et pour le moment, je crois qu'ils aimeraient bien à un moment donné de voir ce qu'on va vraiment faire, qui va dans le sens d'une compétition où pour eux c'est finalement un peu le beurre. Et si vous regardez les résultats, alors ne parlons même pas des agissements des banques centrales, regardez leur taux de chômage, même l'Allemagne et la France en sont très loin, regardez leur déficit, ça c'est vrai que le déficit est très élevé, mais leur déficit c'est souvent pour financer des vrais investissements. Regardez ce qu'ils ont fait avec leur soi-disant projet pour amener des entreprises européennes et forcément pas qu'européennes sur le sol américain. Ah oui, exactement, en parlant d'inflation alors que c'est pas vraiment ça, mais il y a
oui,
quand même
c'est
beaucoup,
rien à voir avec l'inflation.
Oui, ouais, non, rien à voir, mais par contre, je vois à quel point, et là je souligne juste, et ce sera la dernière chose, c'est parce que c'est un sujet, je pourrais parler des heures parce que j'en reviens, mais ce qu'ils font, eux, c'est, Christian a dit tout à l'heure, nous on pénalise parfois les meilleurs, mais eux c'est beaucoup mieux, c'est des gens de l'extérieur, ils arrivent, et notamment dans le Massachusetts où j'étais à Boston, par recevoir les entrepreneurs, quelle que soit la taille, le gouverneur, et dire à chaque fois, dans les 4 mois, 5 mois, si le dossier est complet, ce sera terminé, et j'impose à mon administration qu'il en soit ainsi. Et donc, il y a un respect de l'entrepreneur qui vient aux États-Unis qu'on n'a même pas pour les nôtres en Europe. Et donc, des Européens que j'ai vus là-bas étaient étonnés de l'accueil qui leur était fait, en dehors du reste, qui est évidemment stratégiquement intelligent.
Bon début de semaine.
Bah, oui, non, mais j'ai dit, mais c'est factuel, mais méchant.
André Lozocoul-Pietri, réaction, et puis Christian, mais on a l'impression que la messe est dite, à vous écouter. On a
non, j'espère que non, mais je lisais aussi la chronique, l'excellente chronique de Nicolas Bavrez. Le problème, c'est que
il est toujours très sombre, Nicolas.
Oui, il est très sombre. Bon. Mais vous savez, je pense, c'est un sport national en France et en Europe que de faire des tribunes, mais sans beaucoup de solutions derrière, quoi. Donc ça, j'ai envie de dire, on le savait que l'Europe est exclue de la course à l'IA. Il y a deux choses que je trouve qu'on n'évalue pas. Les deux choses qu'aurait dû faire la commission précédente, et on s'apprête à la réengager pour 6 ans de plus, c'est créer un vrai marché unique, parce que dans tous ces sujets d'innovation, d'investissement, ce qui compte, c'est l'échelle, c'est l'effet d'échelle. Il n'existe pas. C'est une illusion dans la tête de M. Breton que de penser qu'il y a un marché unique. Il n'y a pas de marché unique sur la santé, il n'y a pas de marché unique sur la défense, il n'y a pas de marché unique sur la cyber, etc. Et la deuxième chose, c'est la rapidité de mise en œuvre. Je rappelle qu'on a levé 750 milliards de dette commune, hein, le fameux moment hamiltonien en mai 2020, nous n'en avons dépensé que 24%, 4 ans après. Grande différence avec les Américains, entre 2007-2008, ils ont restructuré leur industrie en 18 mois, nous, 4 ans après, n'importe quel dirigeant de toute organisation devrait être fired, comme dirait notre ami Donald Trump, si en 4 ans, il n'a exécuté que 25%. Rapidité de mise en œuvre, effet d'échelle. Si déjà on faisait ces deux choses-là, mais c'est tellement plus facile de développer des fonds, BPI, France 2030, de couper des rubans pour des usines. Les usines à Dunkerque, avec les surcapacités chinoises en termes de batterie, ça sera des cathédrales vides très vite. Les panneaux solaires en ce moment, on hésite à taxer parce qu'on ne fait pas la cohérence entre la politique climatique de l'Union et la politique industrielle. À la fin, c'est de l'industrie. Et pourquoi la France semble aller un petit peu mieux que l'Allemagne ? C'est qu'en fait, en ce moment, l'Allemagne est en train de subir une désindustrialisation comparable à celle qu'on a vécue dans les 20 dernières années. Et donc, ça va très très mal, très vite en Allemagne.
L'appel d'air de l'IRA.
Ah ben, c'est terrifiant.
Juste une remarque sur les 750 milliards. Il faut quand même savoir que les 750 milliards, il y en a moins de la moitié qui étaient vraiment des transferts. Le reste, c'était des prêts. Hein. Donc, en gros, quand on parle de transferts qui pourraient avoir un effet, il faut se rendre compte qu'à la taille de l'Europe, 750, c'est peu. Mais si vous regardez, évidemment, pratiquement aucun pays n'a puisé, même les faibles, dans les prêts à l'Europe, tellement ils sont conditionnés à des respects, forcément, puisqu'il faut les rembourser, d'une trajectoire budgétaire. Par contre, l'argent qu'on a reçu, et notamment les Italiens, sur le volet, sauf qu'ils ont dû expliqué après que c'était des vrais investissements, mais comme tout le monde a fait des investissements qui n'en étaient pas des vrais, ils n'ont pas eu de problème. Mmh. Mais cet argent, c'est la moitié, ça veut dire à peu près, de mémoire, à peu près 270 milliards.
À peu près, oui.
Voilà, mais on n'en a utilisé que très peu. Donc imaginez, finalement, si ça finit par être utilisé, parce qu'ils sont toujours aujourd'hui mobilisables, ils viendront peut-être dans une politique totalement contracyclique,
c'est où on n'en aura plus besoin.
Alors que les Américains, ils ont aidé tout de suite, quoi.
Christian, l'Europe et la France dans le nouvel ordre mondial, c'est la deuxième phrase du titre de votre livre. Assez tristement résumé.
Y a une mutation totale de l'économie mondiale qui est notamment très très puissante dans trois domaines, hein, qui sont le numérique, les biotech et l'espace. Et dans ces trois domaines, l'Europe, les 27, investissent de l'ordre de 7 à 10 fois moins par an que les Américains, et 5 fois moins par an que les Chinois. Notamment, on le voit pas assez, mais les Chinois investissent comme des malades sur le nouvel espace. Ils sont en train de construire une plateforme colossale dans l'espace, et ils ont des visées sur le contrôle de l'espace, qui est le prochain domaine de suprématie mondiale.
C'est le seul pays à construire sa station spatiale elle-même.
Voilà.
Et donc, les autres sont en coopération.
Sur les biotech, les Chinois sont en compétition directe avec les Américains. Vous avez, et Roland l'a rappelé, quand il y a eu l'épisode Trump, qui par ailleurs est un personnage complexe, mais quand il a dit il faut développer un vaccin, il a mis 15 milliards de dollars sur la table et ça a été dépensé en quelques mois. Et effectivement, les industries pharmaceutiques américaines ont investi autant et tout le monde s'est mobilisé. Donc, ce qui se passe, c'est que nous sommes tellement alourdis par les dépenses de fonctionnement. La France, c'est 56 points de PIB de dépenses publiques. Je n'ai pas regardé ce matin, mais les États-Unis, ça doit être 40.
Oui.
Donc, ils ne sont pas alourdis par les dépenses de fonctionnement comme nous le sommes. Et ils ont une puissance de feu, mais surtout une capacité de décision. En fait, et j'illustre sur la transition écologique. Vous avez trois grandes visions de la transformation écologique. Vous avez la vision américaine, qui est une vision par l'investissement et l'incitation. Notamment l'incitation à l'investissement dans des usines sur le sol américain.
Très efficace.
Vous avez la politique chinoise, qui est perverse, mais d'une redoutable efficacité. C'est le triple lame du rasoir, c'est-à-dire que... Ils développent massivement avec des subventions gouvernementales la production de panneaux photovoltaïques, d'éoliennes, de pompes à chaleur, ainsi de suite, avec pour vision, et puis des voitures électriques, avec pour vision d'inonder le monde avec. Mais dans le même temps, ils ont autorisé dans les trois dernières années 50 centrales électriques au charbon, et tout en investissant aussi dans les panneaux photovoltaïques. Donc ils présentent, quand vous venez les photographier, l'image d'un pays qui investit massivement sur les photovoltaïques, et puis derrière, dans l'ombre, on produit de l'électricité au charbon qui permet de produire les panneaux photovoltaïques qu'on vend à l'Europe pour qu'elle fasse sa transition écologique. Donc, et face à ça, que font les Européens? Eh bien, ils interdisent ou ils réglementent. Hein, c'est l'interdiction de la voiture électrique en 2035.
Alors, je reprends... De la voiture thermique, oui.
La voiture thermique, pardon, en 2035.
Les ventes de thermique.
Et je reprends cet exemple. Moi aussi, je suis pour la transition écologique à fond, mais simplement, que font les Américains? C'est d'inciter à la production de voitures électriques et à l'achat de voitures électriques sans interdiction du thermique. Il faut rappeler que le thermique, c'était un domaine d'excellence absolue de l'Europe, qui représente à peu près en poids 10% de l'industrie européenne. Donc, on se coupe le bras sur ça, et sur le reste, on va importer des voitures électriques d'Europe. Et donc, faire plus con, c'est difficile.
Hein. Et 10% direct.
André Lezecroupier.
Mais il y a ce fameux économiste ancien homme politique de Harvard qui montrait qu'en fait certaines industries irriguaient beaucoup plus. Donc en fait l'automobile est beaucoup plus irriguant dans le reste de l'économie. Il y a vraiment ce sujet où l'Europe interdit certes beaucoup de choses, mais là vient d'annoncer il y a 24 heures qu'elle ne va pas mettre apparemment, en tout cas dans cette mandature, donc en tout cas jusqu'en début 2025, de taxes sur les panneaux photovoltaïques, parce qu'en fait on est pris à nos propres contradictions. Si on veut atteindre nos objectifs climatiques, à nouveau, c'est quoi l'Europe ? C'est souvent des objectifs totalement illusoires d'atteindre une part dans le cloud, une part dans les semi-conducteurs. C'est-à-dire, on est volontariste, mais sans la stratégie industrielle. En fait, cette cohérence stratégique, je pense que c'est ça la grande différence entre l'Europe d'un côté et les États-Unis et la Chine, c'est que en Chine et aux États-Unis, on comprend que l'industrie, les stratégies politiques sont intimement liées. Nous, on travaille par silos et en accordéon, c'est-à-dire en court-termisme absolu. Donc, qu'a dit la commissaire européenne à l'énergie, c'est probablement la pire qu'on ait jamais eue. Elle reconnaît que quand on fait une éolienne, bien on achète des aimants permanents chinois. C'est-à-dire qu'on est en fait en train de créer une dépendance beaucoup plus grande qu'on a eue avec le gaz russe. Mais elle dit, oui, mais bon, ça, c'est pas mon affaire. Je veux mes objectifs climatiques. Et donc, on est en train de rendre... Si demain, les Chinois bloquent les aimants permanents, mais on sera incapable d'atteindre nos objectifs climatiques, mais aussi énergétiques.
Roland Gillet, j'aimerais qu'on dise un mot justement de l'Europe qui a décidé de taxer les voitures chinoises.
Mais juste une phrase qui, pour moi, m'avait choqué à l'époque, parce que franchement, cela c'est un état de fait, grâce à Emmanuel Macron, c'est à un moment donné, on a dit, tiens, on a décidé que le nucléaire était décarboné. Ben, il n'a jamais été carboné, le nucléaire. C'est parce qu'on a décidé à un moment donné de s'en passer, avec les conséquences qu'on a. Mais qu'à un moment donné, sur des faits pareils,
on a quand ça m'a choqué décidé ici, d'arrêter d'en faire un objet politique.
Mais quand ça m'a choqué ici, en tant qu'Européen, j'avais des remarques de collègues américains qui m'ont dit tout de suite, vous êtes quand même revenu au bon sens. Quoi. C'est même pas de l'intelligence, parce que vous avez été à l'université pour comprendre
ça. On a fait de la politique avec
vous. Mais vous voyez le problème aujourd'hui. Si on continue sur les investissements, c'est pareil. Si vous mettez des politiques sociales en place, qu'en plus, quand c'est des crises graves, vous dites, vous voyez bien qu'il ne se passe rien, il suffit de faire des choses qui ne sont pas orthodoxes et qu'on avait dit temporaires, comme par exemple le quantitative easing et le reste. Que les gens voient qu'après coup, tout le monde va quand même très bien. Et même à certains moments, quand vous avez dépenser énormément par de l'emprunt, votre population va beaucoup mieux que certains Américains qui sont dans la rue, avant qu'on ne mette des plans pour les remettre, eux, au travail. La preuve sur le résultat. Et sans pour dire qu'il y a évidemment des problèmes sociaux aux États-Unis aussi. Mais néanmoins, ça donne des résultats que chez nous, on habituait plutôt les gens à dire s'il y a un problème, c'est l'État qui peut le régler, et il peut le régler d'autant plus que quand c'est grave, il suffit de faire des choses que nous, on ne comprend pas très bien, avec la Banque centrale, et finalement, tout le monde est content. Résultat aujourd'hui, pour mobiliser des gens qui ont l'impression que quand on le fait, c'est juste pour leur faire mal, alors qu'on pourrait faire quelque chose de non catholique, de non ce que vous voulez, non conventionnel, mais qui donne des résultats, ça devient difficile de mobiliser les gens.
J'ai une auditrice qui m'envoie un nœud coulant, pour résumer notre discussion. voilà, elle vient de m'envoyer un nœud coulant, le nœud du pendu.
Oui. Mais vous voyez, il y a quand même quelque chose que je voudrais
rappeler. Dans trois mois, on a des élections européennes, donc c'est le moment ou jamais de parler du fonctionnement de ce machin qu'on a mis en place. Je trouve qu'aujourd'hui, juste de dire...
Le machin, c'est la Commission, c'est le Parlement.
Je parle de la manière dont on a créé ce marché unique. Je pense que c'est le moment ou jamais. Entre un parti qui dit il faut juste plus d'Europe et d'autres qui disent enfin, oui. Mais non, c'est parce que j'aime l'Europe qu'il faut la transformer et très vite.
Je suis de votre avis qu'il faut réécrire la feuille.
Oui.
Réécrire le
projet. C'est maintenant.
Alors, allez-y, Roland.
Juste une phrase.
Roland, on n'aura pas le temps de se faire.
Mais Roland, vas-y.
Tu vas juste, Christian, c'est juste une phrase, mais qui pour moi est importante par rapport à ce qu'André a dit et c'est Christian avant. C'est aux États-Unis aussi. Eux, ils nous regardent en disant tiens, vous avez fait Airbus. Ben ça, c'est une belle réussite. D'ailleurs, la preuve,
on
ça nous
a... On pourrait plus le refaire, d'ailleurs.
Oui, mais on ne sait plus le refaire. On a eu un moment donné Siemens Alstom avec notre concurrence intra-européenne, oui. Puisqu'on se bat les uns coq contre les coqs, on finit par ne plus avoir un jour la possibilité même de faire un jour un GAFA. Donc, si on met GAFA X, moi, je crois, je me trompe peut-être, le X sera soit une entreprise chinoise, soit une entreprise asiatique, autre que Chine.
Il y a déjà un X,
oui,
qui existe.
Oui,
Xiaomi.
Non, mais pas, ça va être compliqué, mais je suis d'accord avec toi. Mais ça ne sera probablement pas un Européen et probablement encore un Américain. Et c'est ça, si nous-mêmes, on se tire une balle dans le pied. Parce que moi, je pense que la phrase que je retiendrai, et les Américains l'ont vu, nous, on est un pour tous et chacun pour soi. Et on le voit même au niveau de l'engagement politique. Souvent, ils me disent, ce n'est pas à Bruxelles que je vais chercher une décision, c'est chez les grands pays d'abord, capitale par capitale, et puis après, je vais à Bruxelles. Ça en dit long sur notre manière de faire.
Mais oui, téléphone, bon,
mais l'Union fait la force, il n'y a que la Belgique qui le croit.
Hein, et d'autre part, les vrais idéologues sont chez nous. Les vrais idéologues, on l'a vu sur le nucléaire. Regardez en ce moment en Allemagne, qui est une coalition, il faudrait... Franchement, moi je pense qu'en Allemagne, il faut une révolution ou des élections le plus vite possible. Cette coalition qui dysfonctionne nous amène dans le mur avec des gens qui sont tous les trois dans leurs idéologies. Les libéraux, les verts et les socialistes. Résultat, rien ne marche. Le problème, c'est qu'on dépend tous de l'Allemagne. Et l'idéologie sur la concurrence, moi ça fait quand même 5 ans que je dis aujourd'hui que Mme Vestager, elle est du monde passé. Elle pense en part de marché, alors que dans les technologies, ce qui compte, compte, c'est l'accès au talent et l'échelle. On a des règles qui sont totalement inadaptées. Les changeons-nous.
La concurrence.
Oui, j'ai dû le dire. Enfin, je l'ai vu, mais je l'ai.
Nous devons le changer immédiatement.
Allez-y, Christian.
Non, mais sur le droit de la concurrence, évidemment, Vestager vient de.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est les solutions, toujours.
Vient de modifier la plateforme de contrôle du droit de la concurrence en Europe qui a été établie dans les années 90 et on est en train de la modifier. Mais sans prendre en compte les mutations technologiques absolument massives qui sont intervenues et qui font éclater les limites des marchés. Mais je prends l'Europe parce que c'est très important.
On a 3 minutes 50.
Mais une remarque, une proposition. La remarque, c'est que les élections européennes sont absolument fondamentales au mois de juin. Pourquoi ? Parce que les écologistes qui ne sont pas écologistes en réalité, c'est une idéologie politique de déconstruction du système européen. Si on réduit le nombre de députés écologistes au Parlement européen et qu'on augmente fortement la proportion de conservateurs qui sont plutôt proactifs sur la production, on aura un pas de géant accompli dans la bonne direction, sachant qu'il ne faut pas que le balancier parte trop loin et qu'on aille au-delà des conservateurs et qu'on se retrouve avec une extrême droite nihiliste au Parlement européen, ce qui serait absolument catastrophique. La proposition, alors c'est une bombe nucléaire sur le plan des institutions européennes, c'est, contrairement au traité de Rome, mais c'est une bombe absolue, c'est remettre la Commission sous le contrôle du Conseil européen. C'est-à-dire arrêter l'indépendance de la Commission qui s'est transformée en indépendance bureaucratique et par nature est astratégique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réflexion stratégique au niveau européen, même si Thierry Breton essaye des petites choses dans son coin. Par nature, la construction européenne... Par nature, la construction européenne est astratégique, elle est purement bureaucratique.
Mais le vrai pouvoir, c'est toujours le Conseil européen qu'il a au niveau européen.
Pas du tout, c'est la Commission. La Commission a un pouvoir colossal.
La Commission a le monopole des propositions de loi, donc effectivement déjà. Mais quand même, non, le Conseil a quand même repris repris du pouvoir. Mais le problème, c'est que le Conseil est très divisé, donc il n'y a pas de stratégie non plus.
Non, mais la grande décision du Conseil, Roland vient de le rappeler, il y a 4 ans, c'est les 750 milliards. Et c'est toi qui as dit, on a n'a dépensé qu'un quart. Oui. Donc le Conseil, il essaye, mais c'est pas lui qui est.
Il devrait imposer la mise en œuvre aujourd'hui.
Disons que c'est le passager, la Commission est au volant et le Conseil parle plus fort qu'avant à la Commission, mais c'est toujours la Commission qui a le volant.
Et souvent pour des raisons de majorité. C'est pour ça, parce que les décisions engagent plus que le budget, et donc il faut demander à la présidence qu'elle vienne valider ou qu'elle vienne
décider.
Je pense
d'ailleurs il faut une évolution de l'Union européenne. Moi, ça fait 30 ans que j'écris que je réfléchis à ces questions.
Une union resserrée sur les pays historiques,
oui,
c'est votre idée.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, enfin, moi qui suis totalement pro-européen, j'en arrive à être contre l'Europe fédérale. Parce que ça sera la bureaucratie à la puissance 1000.
Et je pense
qu'il faut revenir à une Europe des nations avec un groupe de pays leaders qui s'engagent sur une politique stratégique très offensive.
Regardez le groupe des 30 premières années.
Regardez,
on a fini.
Regardez Nicolas sur le pacte de stabilité.
Oui.
Vous avez vu ce qui a été décidé. C'est qu'en 2025, c'est-à-dire après les élections, on va mettre la dépense comme étant l'axe.
Oui.
C'est les pays eux-mêmes qui rentreront. Ceux qui sont en déficit excessif, leur trajectoire. Si pendant 4 ans, ils font les choses convenablement, c'est bien. Et s'ils demandent 3 ans de plus, on le leur donnera. Donc ça veut dire que c'est quand même un geste dans le bon sens, puisque c'est l'État lui-même. Et vous avez vu que l'écharpement entre la France et l'Allemagne sur savoir si on pouvait encore avoir des conditions exceptionnelles à tout ça, c'était de dire, oui, mais c'est encore trop dur. Il faut en fait que ce soit les capitales qui fassent ce qu'elles veulent. Et à un moment donné, on finit par avoir quelque chose qui n'est toujours pas voté au bout. Il y a encore un vote qui doit avoir lieu pour que ça commence par...
J'ai jamais été très ému par le pacte de stabilité et de croissance.
Mais
quand je vois ce que le petit frère a produit,
mais je suis d'accord. Mais voyez, c'est le dommage. C'est pas de dire on ne peut rien faire en Europe. Et je ne voudrais pas laisser penser aux gens qui nous écoutent qu'il n'y a aucune solution. On a des possibilités, mais il faut qu'on se mobilise. puissent, c'est tout.
Je voulais vous interroger sur le couple franco-allemand, j'ai pas eu le temps. Et je voulais qu'on évoque le fait de taxer les voitures chinoises, j'ai pas eu le temps.
Mais le couple franco-allemand va mal.
Oui, c'est vrai. Bon. André, qui connaît bien le sujet, acquiesce de la tête.
Ben oui, non, mais c'est clair. Bon.
Quel couple
oui. Voilà, eh ben, écoutez, on commence la semaine avec un nœud coulant, c'est super sympa. Oui. Merci Roland Gillet avec ce tableau.
Il y a eu des propositions positives. Hein.
Ah non,
mais oui, c'est ce qu'on a dit quand même.
Bon. André Le Zecoup Pietri et Christian Saint-Etienne, on se retrouve demain à 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.